France Inter.
Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Les expulsions locatives et la fin de la trêve hivernale après-demain dimanche, dans un contexte de crise du logement, de nombreux foyers vivent dans l'angoisse de l'expulsion. Michel-Édouard Leclerc va-t-il se lancer en politique? Le propriétaire des hypermarchés du Maine-et-Loire ne cesse d'y penser. Du rice cooker à la voiture électrique, en passant évidemment par les smartphones, le chinois Xiaomi a dévoilé sa première voiture électrique, une berline sportive haut de gamme. Mais attention, en Chine, le marché est saturé des déjà sans cesse fabricant dans l'empire du milieu. Et puis vacances de printemps, pont du mois de mai, 30% des Français vont profiter d'un maximum de jours de congé.
Et à 7h45, avec un déficit public plus élevé que prévu, faut-il augmenter les impôts pour sortir du rouge? Et si oui, les impôts de qui? Débat écho sur ce sujet sensible à suivre entre Dominique Seux et Thomas Porcher.
France Inter.
L'angoisse de la fin de la trêve hivernale des expulsions, Laurence.
Dimanche 31 mars, environ 140 000 personnes pourraient être expulsées de leur logement à partir de la semaine prochaine. Dans un contexte de crise du logement, les plus précaires se retrouvent souvent sans solution. Et pour certains, c'est une période de grand stress qui démarre. Benjamin Recouvreur.
Nawel habite dans un logement social à Aubervilliers avec son fils de 15 ans.
J'ai passé devant le juge, il m'a dit « vous quittez le lieu ».
Après plusieurs épreuves personnelles, elle a perdu son travail et ne peut plus payer son loyer. Désormais, c'est l'angoisse.
Qu'est-ce qui va m'arriver après? Je sais pas. Moi et mon petit, on va se trouver où? J'ai pas de solution. Là. Le petit, il me réclame trop. On va y aller où? Il reste pas beaucoup. Je dis, on verra.
Chaque situation est complexe. La procédure est en cours pour Sarah, par exemple, mère de famille, qui reste pour l'instant dans son appartement.
Mais jusqu'à quand?
Son bailleur social a lancé une procédure d'expulsion.
Tous les jours, presque, je vérifie la boîte à lettres. Si je trouve un courrier de la part du juge, j'ai peur. Hein. Franchement, si je suis dehors, c'est un choc quand même. Hein. Ça m'a fatigué.
Christian, 75 ans, locataire depuis 40 ans avec un propriétaire privé, ne pensait lui jamais se retrouver dans cette situation.
La plupart des gens me disent « mais toi à ton âge, tu ne risques rien, on ne peut pas expulser des personnes âgées ». Eh bien pas du tout, je suis expulsable à tout moment.
Et il n'a aucune alternative pour le moment.
Si un jour je suis expulsé, ben je vais où? Je vais sur le trottoir, là. Je n'ai rien. Mes enfants sont locataires de tout petit logement, d'une pièce ou deux. Ils ne peuvent pas m'accueillir. C'est impossible.
Christian, comme Nawel et Sarah, font régulièrement des demandes de logements sociaux sans réponse favorable à ce stade, alors que le nombre de demandeurs n'a jamais été aussi élevé en France.
Benjamin Recouvreur. Trois jours après l'annonce du départ du proviseur d'un lycée parisien menacé de mort après une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile, un rassemblement est prévu d'ici quelques minutes devant la cité scolaire. Un rassemblement à l'appel du Parti Socialiste, étudiants, parents d'élèves et enseignants sont invités à apporter leur soutien au proviseur qui a démissionné. Et puis on l'apprend seulement ce matin grâce à nos confrères de France Bleu Drôme Ardèche. Un élève de 4e de la cité scolaire, François-Jean Armorin, à Crest dans la Drôme, a été intercepté mardi dernier avec un couteau alors qu'il voulait s'en prendre à son professeur de maths qui l'avait puni. Le jeune garçon doit être entendu par les gendarmes, une enquête est ouverte. Le proviseur a porté plainte au nom de l'établissement. La France n'en a pas fini avec la tempête Nelson. Après avoir fait beaucoup de dégâts sur l'Île-Dieu, les parcs, jardins et cimetières des villes de Lyon et de Saint-Étienne seront fermés toute la journée en raison du passage de la dépression et de fortes ravales de vent qui sont attendues dans la région. Il n'exclut rien, il dit même y penser tout le temps. Michel-Édouard Leclerc pourrait figurer sur une liste aux élections européennes. Le médiatique président du comité stratégique du groupe Leclerc a ouvert la porte sur la chaîne LCI. Alors buzz ou vraie vocation, Marie Mollet?
À l'entendre sur LCI, la politique, ça l'obsède.
J'y pense, quand je me rase mal. Mais
donc vous pourriez vous engager en politique?
J'y pense tout le temps, je veux être utile socialement.
De l'envie et des convictions aussi.
Ouais, je suis d'une formation social-démocrate, je crois au primat du projet social et du projet politique. Sans l'Europe, on n'est que dalle, quoi.
Alors, serait-ce une offre de service lancée à la cantonade pour les européennes?
Je n'exclus rien.
Il est vrai, depuis longtemps, Michel-Édouard Leclerc peaufine son image d'un patron Robin des Bois, va-t-en guerre contre l'inflation, des plateaux télé par centaines, un bras de fer avec Bercy. Lors d'une audition au Sénat en 2022, il le disait déjà.
Moi, mon électorat, c'est ces 18 millions de personnes qui viennent faire leur cours chez moi et auprès desquelles je suis redevable.
Dans la majorité, beaucoup ne sont pas tendres avec lui. C'est un mégalo obsédé par le pognon, s'étrangle un député qu'il a connu autrefois. Un businessman, griffe un conseiller, qui mange, dit-il, à tous les râteliers. L'an dernier, il s'était affiché, sourire, photo avec le député RN Sébastien Chenu. Pour qu'il s'éclaire, Michel-Édouard Leclerc s'offre aujourd'hui un joli coup de com.
Michel Édouard Leclerc, c'est un homme de marketing. En entretenant une ambiguïté, aujourd'hui, il sait que ça va faire parler. Plus on parle de soi, plus on se fait de la publicité. C'est ce que sait faire Michel Édouard Leclerc.
Hier, Michel Édouard Leclerc a ouvert la porte à une participation sur la liste de Raphaël Glucksmann. Nous n'avons eu aucun contact avec lui, douche-t-on dans l'entourage du candidat.
Marie Mollet, à moins de 4 mois de Paris 2024, SNCF Réseau d'Île-de-France mise sur l'intelligence artificielle pour réduire les retards, mais prévenir aussi les problèmes techniques. C'est l'immense défi de l'entreprise ferroviaire. Elle développe pour cela la maintenance prédictive. Il s'agit d'une télésurveillance des infrastructures grâce à des milliers de capteurs installés sur tout le réseau de la zone Île-de-France SNCF. Reportage au cœur de ces installations dans le nord de Paris, Manon Derdevé.
Ils sont installés au sol, notamment sur des mécanismes d'aiguillage et sur des passages à niveau, des milliers de petits capteurs capables de repérer les défaillances du matériel en temps réel ou même avec un peu d'avance. Et ce, grâce à un algorithme et à l'intelligence artificielle. Olivier Dubrulle est le responsable du programme Surveillance et Supervision à la SNCF.
L'algorithme va permettre de savoir quand tel ou tel paramètre s'écarte de ce qu'il a appris, quel est le risque d'incident qui va se produire. Sortir l'aiguille de la botte de foin de manière automatique et intervenir de manière un peu plus proactive sur les incidents et notamment avant qu'ils se produisent.
D'ici les JO, près de 5500 capteurs seront déployés sur tout le réseau SNCF francilien. Un outil qui a déjà montré son efficacité selon Olivier Dubrulle.
L'année dernière, on a évité 36 incidents majeurs. Alors là, cette année, aujourd'hui, on est déjà à 18. On est prêt à faire le double par rapport à l'année dernière et on estime que les 36 incidents qu'on a évités auraient pu représenter entre 10 000 et 20 000 minutes de train gêné.
Soit l'équivalent d'une à deux semaines de retard cumulé sur une année. La SNCF travaille déjà sur une nouvelle génération de capteurs capables de détecter d'autres paramètres comme par exemple les données météorologiques pour anticiper encore mieux les aléas et réagir plus rapidement en cas de dysfonctionnement.
Manon Derdevé, clap de fin pour la Renault Zoé à Flins. La petite voiture électrique a été produite sur le site des Yvelines à 420 000 exemplaires pendant 12 ans. Renault Flins s'est désormais converti dans l'économie circulaire et la remise en état de véhicules d'occasion de la firme aux losanges.
Bye bye la petite Zoé, Laurence. Et en voici une qui a tout d'une grande. C'est l'invité surprise dans l'immense marché chinois des véhicules électriques.
Xiaomi, le géant de l'électronique, numéro 3 mondial du smartphone du même nom, se lance dans la jungle du marché électrique et a dévoilé sa toute première voiture, un pari particulièrement risqué pour l'entreprise chinoise qui arrive sur un marché concurrentiel. Explication avec notre correspondant à Pékin, Sébastien Berriot.
Le géant Xiaomi fait partie du quotidien des Chinois avec ses smartphones, ses tablettes et même ses autocuiseurs pour le riz connus ici de tous. L'entreprise mise sur son expérience dans l'électronique pour convaincre les Chinois avec cette nouvelle voiture électrique, la Xiaomi SU7, une berline sportive plutôt haut de gamme. Le fabricant de téléphones a de grosses ambitions en arrivant sur le premier marché mondial du véhicule électrique, mais le pari est audacieux. Depuis le Covid, la consommation est toujours en berne et surtout ce marché du véhicule électrique est pour le moins encombré, voire même saturé. La Chine compte des dizaines de fabricants de voitures électriques, 116 précisément, et même 133 si on compte ceux qui produisent des véhicules hybrides. Tous ces concurrents se livrent à une guerre des prix féroce qui a contraint certains à mettre la clé sous la porte. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Une autre source d'énergie décarbonée disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, car elle est située sous nos pieds, c'est la géothermie. Présenté comme un moyen efficace pour se chauffer en hiver tout en réduisant notre dépendance au gaz ou à l'électricité. Mais cette ressource reste encore peu exploitée. Alors pour favoriser le développement de nouveaux projets, des camions bien particuliers, des camions vibreurs, sillonnent les routes d'Île-de-France depuis un mois en pleine nuit. Leur mission, cartographier le sous-sol pour identifier les réserves d'eau chaude dans les nappes profondes. Reportage à Meudon, près de Paris, de Boris Allier.
Quand ce camion entre en action, l'effet est immédiat, comme un petit tremblement de terre.
On sent les vibrations, effectivement.
Alexandre Stopin est géophysicien au bureau de recherche géologique et minière.
Il est en train de se monter sur sa plaque vibrante, comme vous pouvez voir, et là, il est en train de vibrer.
Des vibrations tous les 10 mètres pendant 40 secondes.
Et chaque fois qu'on a un changement de roche, il y a une partie de cette vibration qui va remonter à la surface. C'est un peu comme une échographie.
Les géologues espèrent ainsi identifier de nouvelles sources géothermiques dans l'ouest et le sud de l'Île-de-France. Des zones jusque-là peu explorées, rappelle Camille Morel, hydrogéologue au BRGM.
Les ressources sur lesquelles on s'intéresse, elles peuvent aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Donc on va caractériser les différentes formations d'intérêt.
À l'heure de la décarbonation et de la souveraineté énergétique, l'enjeu est donc important. Il faut miser sur la géothermie, insiste Norbert Baumenzat de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique.
Sous nos pieds, on a une nappe d'eau ici à entre 50 et 65 degrés. On a une énergie qui n'est pas sensible à la volatilité des énergies fossiles. Et c'est une énergie vraiment d'avenir pour décarboner les villes.
Et aujourd'hui, près d'un million de Franciliens sont chauffés grâce à la géothermie avec une cinquantaine de centrales. L'objectif étant de doubler, voire tripler le nombre de projets.
Boris Allier, un avant-goût des vacances grâce aux jours fériés, vacances de printemps, pont du mois de mai, c'est l'occasion rêvée pour s'octroyer des week-ends prolongés. Vous faites peut-être déjà partie de ceux qui ont fait leurs calculs pour profiter d'un maximum de jours de repos pour s'échapper. Philippe Lefebvre.
30% des Français devraient donc profiter des vacances de Pâques et des ponts du mois de mai pour partir en vacances. Un peu plus de 50% de ces vacanciers resteront dans l'Hexagone et se rendront majoritairement au bord de la mer, en utilisant à plus de 71% leur voiture contre 11% pour le train. Et visiblement, durant ces ponts et ces vacances, les Français seront plus cigales que fourmis. C'est ce qu'observe Hervé Lemoine, le directeur du site easyvoyage.com.
83% des Français qui comptent partir comptent dépenser autant ou plus que l'année dernière. Le budget moyen qui sera dédié donc aux vacances de printemps par personne est de 634 €. Donc ça veut dire que clairement, ils comptent, en dépit de la crise économique et des tensions qui pèsent sur leur budget, ils comptent ne pas sacrifier leurs vacances.
Et cela devrait faire les affaires des professionnels du tourisme, à l'image de la chaîne Logis Hôtel, qui enregistre d'ores et déjà une hausse de son chiffre d'affaires de 40% par rapport à la même période de 2023, avec une hausse de 3% des dépenses moyennes des vacanciers. En revanche, toujours selon le baromètre Easy Voyage, 74% des jeunes actifs entre 18 et 34 ans renonceront cette année aux vacances de printemps pour près de la moitié d'entre eux pour des questions de budget.
Philippe Lefebvre, le week-end de Pâques s'annonce lui chargé sur les routes. Attention, journée classée orange au niveau national par Bison Futé. L'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont pour leur part classées rouges.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, cacher ce symbole de l'Europe que certains partis ne sauraient voir. C'est dans l'édito politique.